Stand up, littéralement lève-toi. L'interprétation de ce titre par l'artiste Cynthia Erivo a été un des temps forts des Oscars hier soir. Seule femme noire parmi les 20 acteurs nominés, l'actrice britannique y voit là une anomalie.
Je souhaiterais qu'à l'avenir, on mette davantage en avant les personnes de couleur. On doit prêter plus d'attention à la façon avec laquelle on établit la liste des nominés ainsi qu'au vote. Il faut que ça change.
Une cérémonie des Oscars qui serait trop blanche. Le reproche est récurrent depuis quelques années. Loin des paillettes de Hollywood, la question d'une meilleure représentation des minorités se pose aussi en France. La semaine dernière, 7 entreprises ont été épinglées pour présomption de discrimination à l'embauche. Parmi elles, Air France, Renault ou encore Accor. À la demande du gouvernement, le CNRS a envoyé plus de 10 000 candidatures fictives avec un résultat éloquent. Beaucoup moins de réponses pour les candidats ayant un nom arabe.
L'objectif, hein, c'est très important de le dire, c'est pas d'évaluer une politique d'entreprise. C'est de se placer à la place d'un candidat à l'embauche, de mimer en fait une recherche d'emploi. C'est uniquement des courriels et c'est pas simplement donc des candidats spontanés et des réponses à les offres. C'est aussi des demandes d'informations sur quelles sont les voies pour déposer ma candidature.
Alors que plusieurs études accréditent l'existence d'une discrimination à l'embauche en France, comment donner à tous la même chance ? Faut-il généraliser les CV anonymes ou alors la discrimination positive ? Sur quels critères se fonder ? La couleur de peau, la consonance étrangère du nom ou encore le lieu de résidence ?
Les États-Unis pratiquent les quotas avec des résultats très mitigés. C'est en tout cas l'avis de cette téléspectatrice. Ne peut-on pas arrêter de suivre des pratiques dont les résultats ne sont pas pertinents ? Catherine Tripon, l'affirmative action, hein, la discrimination positive à l'américaine, ça remonte à la fin des années 60, la lutte contre les droits civiques et évidemment la ségrégation raciale. Qu'est-ce que j'ai dit ?
Contre.
J'ai dit contre la lutte pour les droits civiques et contre la ségrégation, pardonnez-moi. Est-ce qu'elle a montré cette politique, son efficacité, de votre point de vue ?
Alors, d'abord, c'est pas une bonne traduction qui est faite en France sur discrimination positive, l'affirmative action, c'est d'affirmer qu'à un moment donné, ça ne fonctionne pas et qu'il faut donc corriger les choses. Maintenant, le système anglo-saxon ne va pas du tout au système français ou au système latin. Donc ça peut montrer ses limites. On a quand même toute une classe moyenne qui s'est vraiment développée au sein effectivement des African Americans, puisqu'on ne dit pas les Noirs, on dit bien les Africains Américains, qui a effectivement fait ses preuves. Maintenant, à un moment donné, on arrive à un système bloquant. Si les entreprises sont toujours dirigées par des hommes blancs, et pas par des femmes, et pas par des Noirs, ou pas par des personnes qui ont un bras en moins, c'est qu'il y a des freins naturels, et qu'à un moment donné, à la limite des quotas, ça ne fonctionne pas dès qu'on monte dans la hiérarchie. Ça marche sur un niveau intermédiaire, mais ça ne fonctionne pas quand on monte vraiment dans la hiérarchie.
Vous y rajoutez quelque chose, Dominique Sopo ?
Je tiens à faire remarquer que l'émergence d'une classe moyenne très puissante aujourd'hui parmi les Afro-Américains, elle vient de plusieurs
choses. États-Unis, hein.
Aux États-Unis. Oui. Elle vient d'abord de l'affirmation de l'égalité des droits, qui n'était pas gagnée, c'est le mouvement des droits civiques. Elle vient de politiques sociales massives également, notamment sous Johnson dans les années 70. Ça a été mis un peu entre parenthèses sous Reagan, mais ça a plus ou moins repris avec des bonheurs différents dans les années qui ont suivi. Et ça vient non pas tant de quotas, parce que les quotas en tant que tels qu'on les entend, sont interdits aux États-Unis quand même depuis 40 ans, mais d'affirmative action, qui consiste à prendre effectivement des mesures volontaristes. Et les mesures volontaristes, pour le coup, sont sans doute des choses qu'il faut faire, qu'il faut pratiquer. Sinon, effectivement, il n'y a pas de loi naturelle qui ferait qu'à la fin, les gens seraient traités à égale dignité, parce que les préjugés, c'est quelque chose d'extrêmement tenace.
Vous ne dites pas à égalité, vous dites à égale dignité.
Oui, à égale dignité, oui. Après, on peut... Voilà, à égale dignité. Il y a quelque chose de très ancré et qui demande et de la contrainte, à un moment donné, et également de la pédagogie. Il faut marcher sur les deux jambes, mais de façon réelle, et pas simplement comme ça de temps en temps... pour une communication gouvernementale.
D'affichage. Alors, un chiffre, chiffre du jour.
25% un candidat dont le nom a une consonance maghrébine a 25% de chance en moins d'avoir une réponse à une candidature pour un emploi. C'est un chiffre du ministère du Travail du 6 février, c'est tout récent. Alors, Olivier Babot, justement, quand vous voyez ce chiffre-là, est-ce que vous ne vous dites pas qu'il faut des quotas, eh bien, pour faire en sorte que ce chiffre diminue et qu'il y ait un vrai accès au travail pour tous, quelle que soit son origine ?
C'est évidemment une étude très inquiétante et même on peut être légitimement indigné évidemment par ce résultat puisque embaucher quelqu'un, c'est forcément une discrimination, mais une discrimination sur, sur des qualités, sur des compétences, sur une productivité, évidemment, sur des perceptions. Et ça peut évidemment pas être une discrimination, en l'occurrence, je crois. Le test porte à la fois sur la race et aussi un petit peu sur la provenance, sur l'endroit d'habitation, provenance géographique.
Le lieu de résidence.
Ouais. Le lieu de résidence, exactement. Vous avez cet effet-là. Le problème, effectivement, je suis tout à fait d'accord. Le problème du quota, c'est qu'il n'est pas vraiment actionnable. C'est-à-dire que ce n'est pas une solution actionnable, c'est une solution en plus extrêmement rigide. On est là face à un problème, on pourrait dire, de perception, un problème culturel. Et c'est un petit peu, je ferai une comparaison avec le taux d'emploi des seniors. Pourquoi on a du mal à faire remonter le taux d'emploi des seniors? C'est un problème de regard qui fait qu'à partir d'un certain âge, on dit oh, « bah, quelqu'un, il est proche de la retraite, il est plus fait pour travailler ». Et ça, c'est très difficile à changer. On ne peut pas changer ça, malheureusement, par décret. Ça prend beaucoup de temps. Ce qui aurait été intéressant, c'est de voir le taux de progression. Mmh. Regardez à Hollywood, le cinéma dans les années 50, hein, vous regardez les films, c'était quand même assez unicolore, hein, en dehors du fait que c'était en noir et blanc, mais aujourd'hui, on a quand même un progrès qui a été fait et qui est réel de 50
ans. Variable,
mais vous
variable.
Dites pas de contraintes, pas de décrets, mais Catherine Tripon, si par exemple dans la classe politique aujourd'hui, on a beaucoup de femmes, on a 40% de femmes à l'Assemblée, c'est aussi parce que, eh bien, il y a une contrainte budgétaire pour les partis qui n'y s'y plieraient pas.
Alors, c'est pas tant la contrainte budgétaire qui n'est pas suffisante à mes yeux, elle devrait être plus importante parce que beaucoup de partis préfèrent payer.
Pas tous, mais à 40% de députés.
Mais de plus en plus, mais je pense qu'il n'y a pas un parti politique qui sort du lot. Ils sont tous touchés. Ce qui est vrai, c'est que si on n'avait pas mis en place la parité pour les législatives et pour les régionales, moi j'étais élue conseillère régionale, je pense que je n'aurais jamais été élue s'il n'y avait pas eu un homme, une femme sur liste. Donc on a vu des résultats. La loi Copé-Zimmermann, qui effectivement a imposé, dans un délai relativement court, d'avoir 40% de femmes dans les conseils d'administration. Étonnamment, on était à 11%, je crois. Étonnamment, l'année d'après, on avait 10% de plus. Allez-y. Après, ça s'est un peu tari parce qu'il manquait un peu de sourcing. Donc, il a fallu travailler là-dessus. Aujourd'hui, 2019, la France est dans le trio de tête au sein de l'Europe des entreprises dans lesquelles les femmes sont très présentes. Donc, on voit bien qu'à un moment donné, il faut du contraignant pour obliger à changer le système.
Qu'est-ce que vous répondez à ça, Olivier Babeau?
Mais ça suffit pas. On parlait des États-Unis. Alors, c'est vrai qu'il y a une classe afro-américaine qui a émergé, une classe moyenne et même une petite élite. En revanche, tous les signaux sont rouges pour l'incarcération, pour le niveau d'inégalité, pour les écarts de revenus, pour ces grandes pauvretés, pour la délinquance, etc. Et ça montre bien les grandes limites de ces systèmes de quotas, effectivement, qui suffisent pas à infuser dans le reste de la société. Donc, on voit bien que le travail culturel, il est bien plus large et que se contenter des quotas et penser qu'on va pouvoir régler les choses avec des quotas, c'est à la fois créer d'autres problèmes. Parce qu'aux États-Unis, les débats font rage. Ils ont été interdits, les quotas. Ils ont interdit en Californie, dans les universités publiques. Ils ont été interdits dans le Michigan, dans l'État de Washington. À Harvard, il y a eu un grand procès qui est un petit peu en cours, mais qui va probablement aller jusqu'à la Cour suprême. Parce que les étudiants asiatiques disent, mais nous, on nous empêche de rentrer. On devrait être 43% selon nos résultats.
Vous voulez dire que ça peut dresser des communautés les
autres. Problème de ce système, c'est que là, au nom de l'unification, il divise, il essaye de mettre pour régler l'injustice, il met plus d'injustice, il crée la discrimination pour lutter contre la discrimination, et ça, c'est un vrai problème.
Dominique Sopo. Alors,
je pense qu'on ne peut pas réduire la question de la contrainte au quota. Il y a plein de façons de poser des contraintes qui, de toute façon, sont nécessaires pour régler le problème. Et pourquoi? Parce que la discrimination, c'est un délit. Et que, évidemment, il y a de la pédagogie à faire pour que les consciences évoluent, mais en fait, on ne va pas attendre que les consciences évoluent de telle sorte à ce que les délinquants soient convaincus de ne plus commettre leur délit. Lorsqu'il y a un délit, il faut que le délit soit sanctionné réellement. Aujourd'hui, ce que l'on voit quand même sur la question des discriminations raciales, puisque le thème, c'était la question des discriminations raciales dans cette étude,
le thème de l'étude du CNRS,
c'est qu'en réalité, souvent, on va renvoyer aux victimes individuelles. À part que souvent, on n'est pas conscient, on n'a pas la preuve qu'on a été discriminé. Donc en fait, on ne peut pas lutter contre ces phénomènes simplement en renvoyant à l'individualité de la réponse ou de l'action. Souvent, encore une fois, je le répète, ce thème disparaît très régulièrement. D'ailleurs, on a bien vu quand même une forme de gêne du gouvernement pour sortir cette étude qui quand même date d'il y a plusieurs mois. Il faut attendre ces derniers jours pour que l'étude, elle sorte. Donc moi, je pense que la contrainte, il faut qu'elle soit posée en termes d'obligation de formation, en termes aussi d'accès au marché public, sans doute, pour les entreprises qui seraient discriminées.
De sanctions, vous disiez de sanctions.
Il faut que la discrimination, elle ait un coût. Il faut que la discrimination, ce soit un sujet qui soit un peu constant dans le débat public. Sinon, en fait, ça a une très forte tendance à disparaître. Et aujourd'hui, très honnêtement, la question des discriminations raciales, ça n'est pas à l'agenda public. Parce que c'est ça aussi la réalité. On en parle de façon très ponctuelle, mais dans une semaine, vous verrez que ce qu'il y a de plus probable, c'est que c'est terminé, on n'en parle plus jusque dans 6 mois, un prochain testing.
À vous.
Olivier Babeau, alors certains voient dans cette prise de position de Joaquim Phoenix une sorte d'œuvre de salubrité publique. Est-ce que vous voyez dans cela une forme de culpabilisation?
Il faut lire le livre de l'écrivain Bret Easton Ellis, qui s'appelle White. Mm-hmm. Je ne sais pas s'il a été traduit en français, je crois, si qu'il a été.
On a reçu ici.
Donc ce romancier, il est venu d'ailleurs ici, où justement il décrit cette atmosphère très particulière aux États-Unis de compétition de la victimisation et de surenchère dans l'opposition des différentes minorités, chacun disant qu'elles sont plus défavorisées que les autres. Mm-hmm. Et je crois que c'est exactement ce qu'il faut qu'on évite et ce qu'on avait réussi parce qu'on a une culture complètement différente en France, qui est la culture de l'universalisme, qui a fait que, évidemment, on n'a pas eu le phénomène de l'esclavage sur notre sol, qui fait que bon, ils ont dû très très rapidement procéder à une
égalisation très particulière.
On l'a pas eu en métropole. Les Antilles, c'est notre sol. C'est toujours la France.
Oui, mais c'est particulier. C'est quand même pas les États-Unis du tout. On n'a pas eu le séparé mais égaux, vous savez.
Ça n'a pas été en métropole.
Et donc, la culture universaliste depuis la Révolution, c'est
les Antilles, c'est la France.
On ne regarde pas de différence parce qu'il n'y a pas de différence. Parce qu'il n'y a pas de différence à prendre en compte. Ça marche pas mal. Je reviens de La Réunion, honnêtement. Ça marche quand même pas trop mal, même s'il y a des problèmes de chômage. Il y a quand même une atmosphère, ouais. J'ai trouvé, d'harmonie dans ces communautés qui était pas du tout celle qu'on trouve aux États-Unis aujourd'hui.
Catherine Tribon, est-ce que cet argument que porte Olivier Babeau d'universalisme, vous pensez qu'il a en effet une raison d'être? Parce que quand on voit Sciences Po, il y a des conventions qui ont été faites. Est-ce que ça ne mène pas à une forme de scolarisation, de scolarité à deux vitesses entre ceux qui ont réussi le concours normal et ceux qui ont eu une voie parallèle?
En fait, vous posez la question des classes sociales et de la chance au démarrage. C'est la question d'éducation. Mmh. Les enfants d'ingénieurs font une école d'ingénieurs. Quand un gamin d'un quartier, ou un gamin pas d'un quartier, mais de parents pas forcément favorisés, qui n'ont pas fait beaucoup d'études, ou des parents qui maîtrisent pas forcément la langue française. Mais ce gamin ou ces gamines, ils ont des vrais talents, et c'est repéré par l'enseignant. S'ils n'ont pas cet accompagnement pour aller vers l'enseignement supérieur, on ne va pas y arriver. C'est l'enjeu qu'on a aujourd'hui, ça tombe d'associations, dont FAS, mais on n'est pas les seuls. Je pense à Article 1, je pense à d'autres. C'est la question de l'éducation aujourd'hui qui fait qu'il y a une espèce d'autocensure.
Ouais.
Et quand on n'a pas les codes sociaux, et c'est ce qu'avait voulu faire à l'époque à Sciences Po, feu Richard Descoings, en permettant effectivement à ces jeunes des quartiers, ou ces jeunes effectivement défavorisés, mais on s'est rendu compte qu'ils n'avaient pas les codes de leurs camarades. Mais alors, il fallait leur donner les codes sociaux.
Est-ce que finalement cette discrimination positive, c'est une sorte de mal nécessaire?
D'abord, ce n'est pas sur une base ethnique. Le système qui a été mis en place à Sciences
Po, social.
On est
social.
Sur les quartiers prioritaires, même
mais
si...
Mais vous saviez bien quel était l'objectif final.
Entre autres, peut-être qu'on va trouver... Non mais parmi les gens qui sont défavorisés, il se trouve qu'il y a une surreprésentation des personnes d'origine maghrébine et subsaharienne.
Tout à fait.
Incontestablement, mais ça n'est quand même pas rien de ne pas prendre l'entrée ethnique. C'est quand même pas juste un détail. Et qu'il y a beaucoup de personnes qui bénéficient de ce système d'entrée par une voie parallèle, qui ne sont pas d'origine immigrée récente ou qui ne sont pas issus des anciennes colonies, si l'on peut dire. Je tiens à faire remarquer également que ce système qui a été mis en place à Sciences Po fait que ceux qui entrent par ce système ont exactement le même taux de réussite que les autres. D'ailleurs, ça pose la question même de la pertinence de la façon dont on fait rentrer des personnes dans les grandes écoles, parce qu'on sait très bien, en réalité, qu'il y a beaucoup plus de gens qui ont le niveau pour entrer dans ces écoles très sélectives que de personnes qui vont effectivement y entrer. Donc là, je trouve
que c'est un mécanisme. Alors qu'en pense votre voisin? Justement,
c'est
intéressant d'en
plutôt intéressant alors, et intelligent.
Olivier Babeau, quand vous voyez,
à généraliser.
Voilà, ça marche. Certains disent, comme Dominique Soubourg, ça marche. En quoi, vous trouvez que c'est inégalitaire?
Alors oui, effectivement, c'est une question de code. Moi, j'enseignais à Sciences Po il y a longtemps. Il y avait effectivement probablement des étudiants, on ne le sait pas, mais il y a des étudiants dont on se dit ils sont probablement là. Et en effet, c'est des codes, mais au bout de 2 semestres, vous avez compris qu'ils ont tout compris. Il n'y a pas de problème. L'intégration est tout à fait réelle. Le problème, je ne sais pas si ça existe, mais c'est que probablement, peut-être que des employeurs vont dire il y a des vrais Sciences Po et des faux Sciences Po. Ouais. Un peu comme on dit dans les écoles, il y a ceux qui sont rentrés avec prépa et ceux qui sont rentrés sans prépa. Et vous savez, ça, c'est vrai. Pour le coup, ça existe vraiment. Hein. Ça, c'est une différence qui est faite dans l'esprit des gens. Elle est très, très clair. Et c'est d'autant plus honteux pour ceux qui avaient vraiment le niveau. Alors, il y a d'autres systèmes qui ne sont pas des discriminations positives, pour dire, de cette forme-là avec quotas. C'est par exemple, je crois, l'ESSEC qui va dire, on va vous aider, effectivement. C'est une